Il est midi et demi sur France Culture. Et c'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une crèche de Noël peut être installée dans un bâtiment public, c'est ce qu'affirme ce matin la rapporteure publique du Conseil d'État au nom du principe de laïcité. Explication d'Antoine Maret dans un instant, commentaire d'Alain Bergougnou, membre de l'Observatoire de la laïcité. Le mouvement de contestation des policiers, les syndicats vont être reçus par François Hollande. Ils appellent par ailleurs à des rassemblements silencieux devant les palais de justice tous les mardis, suivi de ce conflit avec Florence Turm, analyse politique de Ludovic Piétenu. Au sommet de Bruxelles, les 28 dirigeants de l'Union européenne attendent toujours que la Wallonie lève son blocage au traité de libre-échange avec le Canada. Le Premier ministre belge évoque une radicalisation des positions du gouvernement wallon. On fera le point avec Pierre Benazé, notre invité Philippe Lamperts, qui est député vert européen belge. Dans le nord de l'Irak, où se poursuit la bataille de Mossoul, l'État islamique mène une série d'attaques. Une attaque suicide contre la ville de Kirkouk, précision d'Éric Biegala. Et puis l'Afrique du Sud annonce son intention de quitter la Cour pénale internationale. C'est un camouflet pour cette institution. Décision dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. Analyse dans cette édition avec Sarah Mackay dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Lesbert.
Pour en finir avec l'écocide, ce crime contre l'environnement, Valérie Cabanne, juriste spécialiste du droit international, vient plaider pour un nouveau droit pour la Terre dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55.
Une mairie peut-elle donc installer une crèche de Noël dans ses locaux? Pour examiner cette question très sensible, le Conseil d'État a été réuni ce matin au plus haut niveau et la rapporteure publique Aurélie Bretonneau, dont les avis sont d'ailleurs généralement suivis, recommande donc d'autoriser, sous condition, précisons-le, l'installation de crèches de Noël dans les bâtiments administratifs. Et elle le fait au nom du principe de laïcité. Elle insiste sur la dimension pacificatrice de cette laïcité. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Ça mérite quelques explications. Évidemment, le Conseil d'État se penchait sur la question parce que les tribunaux administratifs avaient rendu ces dernières années des avis divergents.
Effectivement, avec d'un côté la Cour d'appel de Nantes qui avait validé l'installation d'une crèche au Conseil général de Vendée et la Cour d'appel de Paris qui avait au contraire interdit l'installation d'une crèche à la mairie de Melun. Alors installer une crèche dans une administration publique, est-ce en contradiction avec l'article 28 de la loi de 1905, cette fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État? Petit rappel, cet article dispose qu'il est interdit d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. Il y a malgré tout des exceptions. Les édifices servant au culte, les terrains de sépulture, dans les cimetières, les monuments funéraires, les musées ou les expositions. Un conseil général ou une mairie ne font pas partie de ces exceptions. La question est donc de savoir si la crèche est un emblème religieux. Aucun des avocats présents n'a nié l'origine religieuse de la crèche. L'enfant Jésus, entouré de Joseph et de Marie, sur lequel souffle le bœuf et l'âne gris, la dimension chrétienne est incontestable. Et pour le rapporteur, avec le temps, on est passé du cultuel au culturel. La crèche est associée à la fête de Noël, qui est devenue une fête nationale en France, qui dépasse très largement le cadre chrétien. Le rapporteur émet toutefois des conditions à ce qu'une crèche puisse être autorisée dans une mairie. Elle doit être temporaire et elle ne doit s'accompagner d'aucun prosélytisme religieux. En revanche, pour les avocats de la Fédération des Libres Penseurs, la crèche sera toujours vécu par certains comme un symbole religieux. Son autorisation pourrait être considérée comme un privilège accordé à une religion. Il faut donc l'interdire au nom de cet article 28.
Merci beaucoup Antoine Maret pour ces précisions. On est en ligne avec Alain Bergougnou, historien, membre de l'Observatoire de la laïcité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que ça vous convient cet avis, cette proposition en tout cas d'Aurélie Bretonneau, la rapporteure publique du Conseil d'État?
Dans son esprit, oui. Alors après, ce sont les modalités pratiques, parce que la distinction entre le cultuel et le culturel n'est pas toujours aisée, mais c'est une distinction importante. Il est certain qu'en règle générale, il est souhaitable que les bâtiments publics n'affichent pas de signes religieux, parce que c'est l'État qui est neutre, et là, c'est le fondement de la loi 1905. En même temps, dans certaines régions, il y a des habitudes culturelles qui ont été prises, et il est vrai que la crèche de Noël ou l'arbre de Noël sont aujourd'hui des symboles largement universels.
Vous faites fort, vous, de distinguer la frontière entre le cultuel et le culturel, bah voilà, c'est ça?
Je pense qu'il faut, tout ce qui est manifestation d'intention religieuse ne doit pas être permise, mais ce qui est d'une manifestation, disons, culturelle, là, il y a évidemment une tolérance possible. Je crois qu'il faut regarder à la fois vraiment le fondement de la loi de 1905, c'est-à-dire respecter le plus possible le principe de neutralité et en même temps tenir compte des réalités et des évolutions historiques. Parce que la laïcité, c'est un cadre général. Et il faut jamais oublier que sa finalité c'est la concorde civile. Donc ce n'est pas l'opposition entre les catégories et ça ne pas vouloir créer des problèmes lorsqu'ils ne s'opposent pas vraiment.
C'est ce que la rapporteure appelle la dimension pacificatrice de la laïcité.
Elle a parfaitement raison. C'est la finalité de la laïcité. Et d'ailleurs, la laïcité est née de la volonté de mettre fin à la fois aux conflits religieux et à l'influence religieuse sur la loi civile. Donc, il faut voir que cet état d'esprit, c'est créer un cadre qui permet la coexistence des différentes croyances et des différentes philosophies. Et donc, l'import et la neutralité de l'État est évidemment fondamental.
Alain Bergugnou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le mouvement de contestation des policiers après plusieurs nuits de manifestations nocturnes qui rassemblaient plusieurs centaines d'agents à Paris, en banlieue, à Marseille, à Lyon ou encore à Toulouse et Montpellier, les policiers ont obtenu tout de même des gages. Les syndicats qui réclamaient d'être reçus par François Hollande ont obtenu gain de cause. Ils appellent à des rassemblements silencieux devant les palais de justice tous les mardis pour demander notamment la révision du cadre juridique d'emploi des armes pour assouplir les règles de la légitime défense, mais aussi la mise en place de peines planchers pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre. Les syndicats tentent de reprendre aussi en main ce mouvement de grogne qui les a dépassés, qui a mis le gouvernement sur la défensive. Et on attend maintenant donc les propositions que doit faire en début de semaine prochaine le patron des policiers, Jean-Marc Falcon, Florence Turm.
Mieux équiper, rééquiper, donner plus de moyens aux policiers, les déclarations de Jean-Marc Falcon en prélude aux propositions qu'il devrait faire à Bernard Cazeneuve ont laissé les représentants syndicaux quelque peu perplexes. Cela consiste juste à redonner en détail ce que l'on dit depuis longtemps, prendre en compte la réalité du terrain, entendre le quotidien des policiers, disposer de véhicules en nombre suffisant et en état de fonctionnement, comprendre que des patrouilles avec seulement 2 fonctionnaires, ce n'est plus possible dans certains quartiers. Des revendications syndicales qui intègrent aussi la question de la légitime défense, mais qui n'ont pas su se faire entendre. C'est ce qui explique en partie le débordement de la base et les slogans des anonymes lors des manifestations de ces derniers jours. Falcon, démission. Cazeneuve, démission. Des syndicats qui apparaissent aujourd'hui divisés, à la fois sur l'appel à manifester de mercredi prochain, lancé par Force ouvrière, et cette nouvelle initiative portée par plusieurs d'entre eux d'organiser des rassemblements silencieux tous les mardis devant les palais de justice, manière aussi peut-être de redonner un cadre plus légal au mouvement spontané et de canaliser les comportements. Avec précisément la question de la légitime défense en bannière, mais aussi une autre revendication, la mise en place de peines planchers pour les agresseurs des forces de l'ordre, créée sous la droite et abrogée sous François Hollande. Le risque étant aussi désormais de réactiver les antagonismes police-justice au nom du prétendu laxisme de cette dernière. Jean-Jacques Urvoas ne s'y est pas trompé en décidant de recevoir lui-même les syndicats de police, quitte à s'attirer les critiques du syndicat de la magistrature. Le garde des Sceaux rejette pour sa part l'idée de rétablir les peines planchers. Les policiers, eux, répètent chaque soir qu'ils attendent des signes forts du gouvernement.
Et les manifestations de policiers ont parfois donné lieu à des rassemblements plus vastes où se sont greffées d'autres catégories professionnelles. Ça révèle un mouvement finalement assez imprévisible, Ludovic Piétoni.
Oui, quelques chauffeurs de taxi sur les Champs-Élysées hier soir à Paris. Des policiers chaque soir rejoints par de plus en plus de citoyens plutôt politisés, ceux de la manif pour tous, qui défilaient dans la capitale pas plus tard que dimanche dernier, ou du micro-parti politique Ciel, Souveraineté, Identité et Liberté, allié au Front National. Ailleurs, on a vu des infirmiers qui, par ailleurs, ont prévu de manifester dans 2 semaines. Certains lancent des appels sur les réseaux sociaux aux enseignants, aux pompiers, aux médecins, aux chauffeurs de bus. Bref, tous ceux qui travaillent avec la racaille lâche, sans nuance. Sandra de Marseille, qui se définit elle-même sur Twitter comme réac, facho, soutien de Nicolas Sarkozy, et ajoute-t-elle sympathisante les Républicains, mais pas sectaire. Dans ces cortèges, on chante la Marseillaise plus que des slogans, et quand il y en a, ils appellent à la démission du ministre Cazeneuve ou Falcon, le patron de la police, ou bien ils scandent « Citoyens avec nous ». Pour les policiers, l'enjeu est là, la convergence. Le rendez-vous de mercredi prochain, la manifestation annoncée « Place de la République » a un titre explicite « Marche de la colère policière et citoyenne ». Et juste en dessous, on peut lire « Sont invités tous les policiers, tous les métiers de sécurité et tous les citoyens ». La nuit dernière à Paris, Paris, une militante de Nuit Debout, le mouvement du printemps dernier qui peine à remobiliser depuis la rentrée, a bien tenté d'approcher du cortège des policiers pour appeler, elle aussi, à une convergence des luttes. On n'est pas des policiers debout, mais à bout, corrige un manifestant qui refuse le tract qu'elle leur tend. Signalons enfin que l'un des porte-parole de ces manifestations nocturnes parisiennes s'appelle Rodolphe, que c'est un ancien policier en rupture à cause, dit-il, des syndicats, un homme déjà à l'origine de plusieurs marches blanches ou protestations sauvages de policiers, dont une dans l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle, ou plus récemment contre l'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira, un homme engagé sur les listes Front National en Ile-de-France, de quoi rappeler la clameur de juin 83 quand des policiers proches de l'extrême droite avaient réclamé la démission du garde des Sceaux socialiste de l'époque, Robert Badinter, après que deux policiers avaient été visés par des membres du groupe Action Directe.
Merci Ludovic Piétenu. Donc il reste à savoir, si je vous comprends bien, s'il y aura une convergence entre Nuit Debout et Police à bout. On verra bien. Un mot de politique française encore avant d'aller à Bruxelles. Avec cette polémique à droite autour de propos tenus par le candidat à la primaire Jean-Frédéric Poisson dans un entretien à Nice matin. Hier, il affirmait que la proximité d'Hillary Clinton, je cite, avec les super financiers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereuses pour l'Europe et la France. Fin de citation. Condamnation assez large ce matin, notamment de la candidate à la primaire à droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui annonce qu'elle va saisir la haute autorité de la primaire. Christian Estrosi demande de son côté à Jean-Frédéric Poisson de retirer ses propos et faute de quoi, il n'aurait plus sa place selon lui dans la primaire. On l'écoute.
Ces déclarations sont inacceptables. Elles sont insupportables. Ce genre de comportement, on sait où il a pu conduire. Et moi, je demande très fermement, en tant que membre de la famille des Républicains, ou à M. Poisson, dont peut-être les paroles ont dépassé sa pensée, de bien vouloir s'en excuser, les retirer. Je demande par ailleurs à tous les autres candidats participants aux primaires de dénoncer aujourd'hui les propos de M. Poisson. En ce qui me concerne, si M. Poisson ne dit pas « je me suis trompé, ma langue a fourché, je ne le pense pas du tout, je le regrette, je m'auto-condamne moi-même », il n'a plus sa place dans la primaire.
Christian Estrosi, donc président de la région PACA, soutien de Nicolas Sarkozy, et Jean-Frédéric Poisson, qui est le président du Parti chrétien-démocrate, candidat pour cette primaire, a lui-même réagi ce matin sur France Info à ces condamnations.
Je suis désolé de devoir me justifier de ne pas être antisémite ni conspirationniste. Tout ça est parfaitement étranger à ma manière de voir le monde et les hommes. Et de me traiter de la sorte, je ressens ça comme une injure au fond. J'ai été sollicité par vos confrères de Nice Matin sur la vie politique américaine. J'ai indiqué qu'il existe des groupes de pression de toute nature, pro-palestiniens, pro-lobby armés, pro-tabac, anti-tabac, etc., qui vivent dans les institutions américaines. Il y a des groupes de pression sionistes, il y en a plein, les sites internet, et ils sont extrêmement puissants, ça existe et ça fait partie de la vie politique américaine. Le fait de les mentionner n'est de ma part qu'un commentaire sur le contenu de la vie politique américaine. Et si j'avais dû dire groupe de pression pour donner à mon vocabulaire un caractère moins corrosif dans la vie politique en France, en tout cas je veux bien parler de groupe de pression. Il n'en reste pas moins que c'est autour de ces lobbies qui sont déclarés, qui sont organisés aux États-Unis, que s'organise la vie politique américaine.
Jean-Frédéric Poisson donc s'expliquait ce matin sur France Info. 12h45, la Wallonie continue de faire de la résistance. Les 28 dirigeants de l'Union européenne sont toujours réunis en sommet à Bruxelles et ils attendent toujours une réponse de la Wallonie, qu'elle lève son blocage au traité de libre-échange avec le Canada. Le Premier ministre belge Charles Michel déclarait ce matin n'être pas rassuré, avoir le sentiment qu'il y a, je cite, une radicalisation des positions du gouvernement wallon. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour Antoine.
Donc apparemment, rien ne bouge. La Wallonie campe sur ses positions. Les dernières propositions sont qualifiées d'insatisfaisantes et le sommet se termine donc a priori sans approbation du traité.
A priori oui, parce que le ministre-président de la région Wallonie l'a dit très clairement, Paul Magnette, il ne veut pas acheter un chat dans un sac. Les explications qui lui ont été fournies par la Commission européenne, par les négociateurs, ne sont pas suffisantes, en particulier sur deux problèmes fondamentaux et hautement symboliques pour la Wallonie, à savoir d'une part le problème du tribunal d'arbitrage qui mettrait, selon ce gouvernement et ce Parlement, l'économie de la Wallonie aux mains des grandes multinationales, et puis aussi des garanties sur les services publics qui ne sont pas encore suffisantes. Donc, Paul Magnette, président de la région Wallonne, passe au-dessus du gouvernement fédéral et de la Commission européenne et va négocier directement avec la ministre canadienne du Commerce, qui était présente en Belgique depuis hier, Chrystia Freeman. Il y a aussi évidemment des facteurs internes à la Belgique qui viennent compliquer la donne, les quelques frictions politiques entre un Parlement régional plutôt classé à gauche et un Parlement fédéral plutôt classé à droite. Et puis, il ne faut pas négliger la possibilité peut-être d'un syndrome Astérix un jour, avec toutes les expressions à tenir bon qui viennent un peu partout en Europe et du Canada. Le gouvernement, le Parlement wallon pourrait vouloir rester un village gaulois. La seule échéance véritable, ce n'est plus le sommet aujourd'hui, c'est cette rencontre avec Justin Trudeau le 27 qui pourrait elle aussi peut-être être repoussée.
Pierre Vénazet, merci beaucoup en direct de Bruxelles et nous retrouvons également à vos côtés Philippe Lamberts, bonjour.
Bonjour.
Député belge européen, coprésident du groupe Vert, donc au Parlement. Pourquoi la Wallonie? Pourquoi est-ce que c'est la Wallonie qui joue là, le rôle de grain de sable dans cette mécanique mondiale?
Oh, c'est un petit phénomène qu'on a eu tendance à oublier ces dernières années en Europe, qu'on appelle la démocratie. Je sillonne la Wallonie depuis des années, depuis que je suis député européen, mais depuis 3 ans, 80% des invitations que je reçois, y compris dans des arrière-salles de café au fin fond de la Wallonie, c'est pour discuter de quoi? Des traités commerciaux, TTIP, CETA, TISA. Et donc, il y a une véritable mobilisation citoyenne et une grande inquiétude de la part de la population francophone de ce pays. C'est un fait, et beaucoup semblent le découvrir aujourd'hui.
Mais j'ai pas non.
Mais pour les raisons,
Pourquoi spécialement en Wallonie?
Ah ben ça, écoutez, parce que peut-être qu'on a la nuque un peu raide en Wallonie et que les gens en ont un peu marre de se faire tondre sur pied. Vous savez, on a vécu quand même une désindustrialisation violente en Wallonie qui s'est encore manifestée tout récemment avec la fermeture de la plus grosse usine Caterpillar en Europe. On voit que se soumettre aux multinationales, eh bien, ça n'est pas la meilleure idée pour garantir une prospérité durable et partagée. Et donc les gens aujourd'hui se réveillent.
Est-ce que les pressions vont venir à bout de ce Parlement de Wallonie, les pressions internationales extrêmement fortes?
Écoutez, ce que j'espère, le mot que vous utilisez est évidemment très inquiétant parce qu'il confirme, ce que certains chefs d'État en Tchéquie, en Hongrie, ont utilisé comme langage à l'égard de Bruxelles en disant que Bruxelles était la nouvelle Moscou qui donnait des ordres aux États satellites qui ne se comportaient pas comme le centre exigeait qu'ils se comportent. Si ça, c'est l'approche, je crains très fort que la réaction soit un raidissement. Par contre, si du côté européen, du côté des 27 chefs d'État et de gouvernement, on est prêt à prendre en compte, et c'est-à-dire à répondre aux préoccupations qui ont été exprimées par le Parlement wallon à une immense majorité, eh bien alors, je pense qu'il y a un chemin de sortie de crise qui est possible, en particulier sur la question de ces tribunaux arbitraux. Dites-moi pourquoi, entre deux États de droit, que sont le Canada et les 28 États de l'Union, pourquoi nous avons besoin d'une justice d'exception? On ne me l'a toujours pas expliqué. Ce qu'on me dit, c'est « Oui, mais vous savez, on a beaucoup amélioré le processus. » Oui, mais vous savez, qu'on passe d'une voiture diesel à une voiture électrique, si en fait je vais à vélo, je n'ai pas besoin de cette voiture. On n'a pas besoin de ces tribunaux. Et l'insistance que mettent les partisans de ce traité à imposer ces tribunaux donne l'impression qu'en fait, c'est exactement ça qu'ils veulent, c'est-à-dire des instruments d'intimidation à l'égard des démocraties pour en fait les inciter à ne pas légiférer trop fort et trop loin. Et donc au détriment des multinationales. Si on s'en était tenu à un accord commercial, c'est-à-dire abaissement des tarifs, accès au marché, standardisation des normes techniques, le CETA serait passé sans même qu'on s'en rende compte. Mais l'insistance des multinationales et de leur relais dans les institutions européennes et dans les gouvernements nationaux a imposé ces mécanismes de convergence réglementaire, ces tribunaux d'arbitrage, a rendu le tout à la fois hors des compétences exclusives de l'Union et surtout a rendu le tout suspect à l'égard de nos concitoyens. Et il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, certains se rebiffent et j'en suis très heureux.
Philippe Lamberts, merci beaucoup. Il faut s'arrêter là. Malheureusement, on aurait pu parler aussi du reste de ce sommet, cette question du Brexit, mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, on y reviendra dans notre édition de la mi-journée. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous en direct de Bruxelles. On dit un mot de la guerre en Syrie. Nous sommes au deuxième jour de la trêve humanitaire qui a été décidée par Moscou. Aucune évacuation de blessés de la partie rebelle de cette ville n'a eu lieu ce matin. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, accuse les rebelles syriens de violer le cessez-le-feu et aussi d'empêcher donc l'évacuation de la population. population. Pendant ce temps, en Irak, 4 jours après le lancement par les forces gouvernementales de l'assaut sur la ville de Mossoul, des hommes soupçonnés d'appartenir donc à l'État islamique ont contre-attaqué sur la ville kurde de Kirkuk. Des dizaines de djihadistes qui attaquent donc cette ville après avoir procédé dans la nuit à plusieurs attentats suicides. Communiqué de revendication d'ailleurs de l'EI qui affirme que ces forces attaquent la ville à partir de tous les axes et contrôlent presque la moitié de cette ville. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment est-ce qu'on qualifie cette offensive? Jusqu'où va-t-elle? Est-ce une contre-offensive? Est-ce une simple action d'éclat?
Ça tient apparemment un peu des deux, Antoine. Il y a d'abord les actions d'éclat, celles qui par exemple attaquent une centrale électrique en construction au nord de Kirkuk. Ce matin, les assaillants djihadistes réussissent à tuer une quinzaine de personnes sur place et se font finalement exploser lorsqu'ils se retrouvent coincés par les forces de sécurité de la dite centrale. Et puis il y a l'opération sur Kirkuk même, sur la ville. Là, c'est visiblement plus ambitieux et ce n'est d'ailleurs pas fini. Des combats étaient toujours en cours en pleine ville, en plein centre-ville, il y a encore une demi-heure. Ce qui semble clair, c'est que plusieurs dizaines de djihadistes, peut-être même plusieurs centaines, ont réussi à pénétrer en ville cette nuit, malgré les très nombreux checkpoints qui défendent les principaux accès à la capitale régionale. Peut-être y avait-il aussi en ville quelques cellules dormantes de l'État islamique. Là, cela tient donc de la contre-offensive parce que, en fait, c'est l'une des seules possibles pour l'État islamique. Avant de lancer son action sur Mossoul, l'armée irakienne a pris bien soin de nettoyer son couloir d'accès à Mossoul depuis Bagdad de toute poche djihadiste. Ça, c'était sur la rive occidentale du Tigre. Mais sur l'autre rive, la rive orientale, il restait une très importante zone occupée par les djihadistes, la région d'Awija, qui se trouve en fait sur les arrières des forces irakiennes qui attaquent Mossoul en ce moment. Ces dernières sont toutefois protégées par le fleuve, difficilement franchissables. En revanche, Kirkuk est à portée des djihadistes à une dizaine de kilomètres de la zone qu'ils tiennent à Awija. En ce sens, il s'agit bien d'une contre-offensive, mais très limitée, puisque les attaques de ce matin ne gêneront en rien l'offensive en cours sur Mossoul.
Merci beaucoup Éric Biegala. C'est un nouveau camouflet pour la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud annonce officiellement ce matin son intention de se retirer de cette CPI. Pretoria juge incompatible d'y siéger au regard de la législation sud-africaine qui octroie l'immunité diplomatique aux dirigeants en place. Active depuis 2002, composée de 124 États membres, la CPI qui siège, on le sait, à La Haye est la première juridiction qui jouissait d'une compétence internationale permanente pour juger les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Et il y a plusieurs pays africains qui ont déjà reproché à cette instance de se concentrer surtout sur l'Afrique, d'où évidemment c'est là-dedans que s'inscrit cette décision de l'Afrique du Sud, en tout cas son intention de se retirer, Sarah Maquet.
Oui, tout à fait Antoine. Alors, dans le cas de l'Afrique du Sud, le début du divorce avec la Cour pénale internationale date d'il y a un an, après que le pays ait accueilli à Johannesburg le président soudanais Omar al-Bashir pour un sommet de l'Union africaine. Un président accusé de génocide et de crimes de guerre contre qui la CPI a émis un mandat d'arrêt, mais Pretoria refuse alors de l'extrader et face aux critiques, décide de quitter la CPI. Alors pour se retirer du traité de Rome, texte fondateur de la Cour, un pays doit en informer le secrétaire général de l'ONU et le retrait prend ensuite effet un an plus tard. Mais qui de l'Afrique du Sud ou du Burundi sera le premier à officiellement quitter la Cour pénale internationale? La question reste entière. Le Parlement burundais a validé la semaine dernière une sortie de l'institution, mais l'ONU dit ne pas avoir reçu de notification officielle. Aucune confirmation non plus ce midi de la réception par l'ONU de la demande sud-africaine.
Afrique du Sud, donc Burundi, puis il y a d'autres pays d'Afrique qui partagent aussi ces réticences.
Oui, le continent africain avec 34 pays signataires de l'accord de Rome sur 124 est le continent le plus représenté au sein de la Cour pénale internationale. Une cour régulièrement accusée de néocolonialisme. À l'origine de cette critique, une équation. D'un côté, les Européens, plus gros contributeurs financiers de la Cour. De l'autre, les 9 enquêtes actuelles de la CPI, qui, mis à part une exception, concernent toutes des pays africains. Un retrait groupé des pays africains de la CPI est même à l'étude depuis le début de l'année, bloqué pour l'instant par le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Reste que les exemples burundais et sud-africains marquent peut-être le début d'un mouvement plus global. L'idée des opposants à la CPI serait alors de la remplacer par une Cour africaine de justice et des droits de l'homme.
Sarah Marquet, merci beaucoup. Un tout petit mot quand même à l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Valérie Cabanne. On a peu de temps, mais c'est évidemment un sujet dont on va parler, puisque vous souhaitez, vous, dans votre livre Un nouveau droit pour la Terre, que cette conception de droit international s'universalise, y compris à la nature. Alors là, on voit bien que pour ce qui concerne même les hommes, les États, ça ne fonctionne pas. Que se passe-t-il avec la CPI? Est-ce que c'est un contre-exemple et en quoi?
Ça montre effectivement qu'elle doit évoluer. Vous l'avez très bien dit. La problématique aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont été accusées et amenées devant la cour sont des États, des dictateurs ou des chefs d'État africains. C'est une discussion que je vais pouvoir d'ailleurs avoir la semaine prochaine à Genève, puisque l'Afrique du Sud a amené avec elle un certain nombre d'États pour un projet de traité contraignant sur les multinationales et les droits de l'homme. Et je pense qu'on va pouvoir justement aborder ce sujet-là en leur expliquant que s'ils accompagnent une réforme de la CPI qui puisse permettre de juger non pas seulement ces fameux dictateurs africains, mais finalement des chefs d'État ou des dirigeants de multinationales qui menacent leurs propres conditions d'existence, alors ils pourraient accompagner un véritable mouvement pour une justice planétaire.
Merci beaucoup Valérie Cabanne. On vous retrouve dans quelques secondes, le temps de vous donner la météo avec un ciel nuageux, avec des averses passagères du nord au nord-est jusqu'au nord du Massif central et puis un soleil qui brillera sur la moitié sud, température 9 à 21 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Brice Garcia, n'oubliez pas 17h le magazine Lesbos, terre de détresse, des reportages de Marie-Pierre Véraud présentés par Aurélie Kiffer, réalisé par Yacine Bouzard et Jean-François Braun. Le prochain journal est à 18h avec Benoît Bouscarel.